Chapitre 9 Maléfice. J'avais beau penser à autre chose, à chanter, à me réciter les tables de multiplication, je devins bientôt la proie d'une idée fixe, boire et me baigner. Il faisait de plus en plus chaud, nos vêtements nous collaient à la peau, nos gorges étaient desséchées. Et la rivière était là, déroulant son flot cristallin, sa fraîcheur. Elle semblait dire « Buvez-moi, je suis meilleure que tous les sodas du monde. Plongez dans mon eau, elle vous délassera des pires fatigues. » « Je suis sûre qu'elle a un goût d'orangeade, » murmura Poppy derrière moi. « Elle doit pétiller. Si j'avais une paille. » « Arrête, » lui soufflai-je. « C'est un piège. Elle essaie de nous hypnotiser. Si nous cédons, nous sommes fichus. » C'est là-dessus que compte la réveilleuse. Elle doit estimer que les filles dans notre genre n'ont pas une miette de volonté. « Eh bien, elle a raison !» hurla Poppy en tombant à genoux sur la berge. « Je n'en peux plus, il faut que je boive !» Déjà, elle se penchait au-dessus de l'eau, la bouche grande ouverte. Je n'eus que le temps de l'empoigner par les cheveux pour la tirer en arrière. Elle poussa un hurlement de douleur et essaya de me griffer. Je lui balançai une paire de claques. J'en avais envie depuis un moment, je l'avoue. Mais là, c'était surtout pour lui rendre service. Enfin, ça m'a fait du bien. Et à elle aussi, car elle a cessé de s'agiter pour se mettre à pleurer. Bien sûr, elle a boudé. Et l'ambiance est devenue détestable. J'ai cru que Mathilda et Poppy allaient me planter là pour rentrer au village quand j'ai aperçu quelque chose au fond de la rivière. Une femme qui marchait sous l'eau. Elle ne portait pas de scaphandre ni aucun accoutrement de ce genre. Non, elle avançait à pas lents dans la vase du fond en s'aidant d'une canne sculptée. C'était une vieille femme vêtue de noir qui progressait obstinément les yeux mi-clos. De toute évidence, elle n'avait pas besoin de remonter à la surface pour respirer. Et l'eau ensorcelée n'avait aucun effet sur elle. Poppy, Mathilda et moi, nous sommes figés sur la berge, n'osant plus faire un mouvement. Au fond de la rivière, l'inconnue poursuivait son chemin au ralenti, ses grosses chaussures creusant des empreintes dans la vase. Les poissons venaient la regarder sous le nez, mais elle s'en fichait. « On dirait une sorcière, » a soufflé Poppy. « Elle est horrible !»« Elle sait que nous sommes là, » a murmuré Mathilda, « mais ça ne l'impressionne pas. » J'ai dit, « L'eau magique la protège. Elle sait que nous ne pourrons pas plonger pour l'attaquer. » Elle est parfaitement à l'abri. J'ai vu que la sorcière portait un étui d'acier en bandoulière. Une espèce de cylindre qui contenait la seringue avec laquelle elle piquerait le colosse endormi. « C'est fichu, » a capitulé Mathilda. « On ne peut rien faire. Je propose qu'on rentre au village rassembler nos affaires et qu'on décampe avant le réveil du géant. » « Non, ai-je grogné. Il faut essayer de lui arracher l'étui de fer. Il nous est impossible de plonger, c'est vrai, mais on peut utiliser une ligne, un hameçon. L'eau ne dissout que les humains, rappelez-vous, pas les objets. »« Pas bête, » a admis Mathilda. J'ai inventorié le contenu de mon sac à dos. Heureusement, avant de quitter la maison, j'avais glissé dedans une trousse de survie offerte par mon père pour mes 11 ans, lorsque je rêvais encore de devenir exploratrice et archéologue. Elle contenait, entre autres choses, de la poudre pour éloigner les requins, un miroir pour faire des signaux de détresse, des aiguilles et du fil pour recoudre les plaies, burk, un hameçon et du câble de nylon. Agenouillés dans l'herbe, nous avons fabriqué une espèce de canne à pêche
au moyen d'une branche solide mais pas trop lourde. Ensuite, nous avons lesté la ligne à l'aide d'une pierre. Le plus dur restait à faire. À présent, il fallait se débrouiller pour accrocher avec l'hameçon la bandoulière de l'étui contenant la seringue. L'opération était rendue compliquée par le fait que la sorcière, vêtue de noir, progressait d'un pas lent mais obstiné. Nous étions donc obligés de la suivre en marchant le long de la berge au ras de l'eau. Ça s'est vite révélé un exercice difficile. Heureusement, la réveilleuse ne semblait pas voir l'hameçon qui voletait autour d'elle. Ou bien elle s'en moquait carrément. À force de tenir la canne à pêche, des crampes nous raidissaient les bras. Pendant ce temps, la sorcière continuait à marcher au ralenti, penchée en avant pour vaincre la résistance de l'eau qui lui opposait son mur élastique. Poppy a eu un geste maladroit et l'hameçon s'est planté dans les vêtements de la vieille. J'ai cru que tout était fichu. Par bonheur, le tissu de la robe s'est déchiré et nous avons pu récupérer la ligne. Bon, ça a duré comme ça un long moment. Nous en avions toutes assez quand l'hameçon a enfin accroché la lanière du tube. Je me suis cramponnée à la canne et j'ai tiré, tiré. Cette fois, la sorcière a réagi. Heureusement pour nous, l'eau ralentissait ses gestes. Elle s'est débattue, mais maladroitement, et le tube lui a échappé. J'en ai profité pour le hisser sur la berge. La réveilleuse n'a pas apprécié. Elle est entrée dans une grande colère et a brassé l'eau pour créer un tourbillon. Nous avons reculé afin d'échapper aux éclaboussures qui auraient creusé des trous dans notre peau. J'ai couru, tirant le fil de la canne à pêche derrière moi. L'hameçon était toujours accroché au tube, mais comme tout était mouillé, je n'osais y toucher de peur que mes doigts ne fondent. « Elle est sacrément en colère !» a bredouillé Mathilda. « Si elle sort de la rivière pour nous empoigner, nous sommes fichus. » J'avais peur, moi aussi. Une seconde, j'ai imaginé ce qui se passerait si la vieille femme nous attrapait pour nous cracher au visage de l'eau de la rivière. Notre figure se liquéfierait aussitôt. J'ai regardé par-dessus mon épaule pour voir si elle se hissait sur la berge. Mais non, elle continua à brasser l'eau sans essayer de remonter à la surface. « Elle a peur de sortir !» a chuchoté Poppy. Elle sait qu'une fois hors de l'eau, la magie de la rivière ne la protégerait plus et que nous pourrions la tuer d'un coup de couteau. Je crois qu'elle n'osera pas nous courir aux fesses. Je la trouvais un peu trop sûre d'elle. Moi, j'en étais moins certaine. Mon cœur battait à toute allure. Si la sorcière avait soudain pris pied sur la rive, avec ses vêtements et ses cheveux dégoulinants, je serais tombée dans les pommes, foudroyée par la trouille, je vous jure. Je suis restée un bon moment sans bouger, à regarder les tourbillons. Puis la réveilleuse a paru se calmer. « Je ne sais pas ce qu'elle mijote !» a grogné Mathilda. « Nous ferions mieux d'écraser cette seringue et de ficher le camp. » Hélas, avant de toucher l'étui, il fallait attendre qu'il sèche. Aussi l'avons-nous exposé au soleil. Si nous avions eu des gants de caoutchouc, tout aurait été plus facile. Nous nous sommes penchés sur le tube de fer pour voir comment l'ouvrir. Mais il n'y avait pas de fermoir apparent. C'était un cylindre, assez joli au demeurant, décoré de ciselures compliquées. « Il est sec !» m'a lancé Poppy. « Ouvre-le !» Bien sûr, elle ne voulait pas y toucher, la petite peste. J'ai attrapé le tube pour le retourner en tous sens, à la recherche d'un couvercle, d'un bouchon ou de je ne sais quoi. Il n'y avait rien. « Il s'agit d'une fermeture secrète, » a soupiré Mathilda. « On ne la trouvera pas. Probable que seule la sorcière peut l'ouvrir. »« Alors, il n'y a qu'à écraser l'étui avec une pierre, » a décidé Poppy. « La seringue n'y résistera pas. Elle sera réduite en morceaux. » J'ai ramassé un gros caillou et je l'ai abattu sur le tube. ça ne l'a même pas éraflé. Un éléphant aurait pu marcher dessus sans lui faire la moindre bosse. « Solide, ce truc !» a grommelé Mathilda. « Alors, folle de rage, nous nous y sommes mises toutes les trois, chacune frappant avec un caillou, en poussant des hans de femmes des cavernes qui chassent le mammouth. Ça valait le coup d'œil, je vous jure !» Ce déploiement de force n'a rien donné. Essoufflés, nous avons examiné le tube, il était toujours intact.
« Y a qu'à l'enterrer profond !» a bredouillé Poppy. « Et entasser des pierres dessus. Une montagne de pierres !» Comme personne n'avait rien de mieux à proposer, c'est ce que nous avons fait. J'ai enseveli le cylindre à 60 cm de profondeur. Poppy et Mathilda ont recouvert le trou avec de gros cailloux. Une fois ces précautions prises, nous nous sommes assises autour du tumulus pour monter la garde. Mes copines n'étaient guère rassurées. Moi pas trop non plus, mais je m'appliquais à ne pas le montrer. Qu'est-ce qu'on fait si la sorcière sort de la rivière pour récupérer l'étui ? A demandé Poppy d'une petite voix geignarde. Je n'en savais rien. J'ai eu envie de répondre « On se sauve en courant !» Mais ça n'aurait pas fait sérieux. Alors j'ai suggéré de s'armer de bâtons pour la repousser. Ainsi équipés, nous avons fixé la rivière avec angoisse, terrifiés à l'idée de voir tout à coup la tête de la réveilleuse pointée hors de l'eau. Pendant une dizaine de minutes, il ne s'est rien passé. Puis Mathilda a dit « Vous n'entendez rien ?»« Quoi ?» a gémi Poppy. « Si t'essaies de me faire peur, c'est pas drôle. » Je me suis penchée et j'ai effectivement perçu un grattement souterrain sous nos pieds, comme si une bête creusait le sol. « C'est la sorcière !» a hoqueté Mathilda en devenant pâle. « Elle creuse une galerie pour s'emparer de l'étui. Elle est juste au-dessous de nous. » J'ai dit « Non, c'est le contraire. C'est l'étui qui creuse. Il est en train de se diriger vers la rivière pour rejoindre sa maîtresse. » J'aurais dû y penser plus tôt. Il s'agissait bien sûr d'un étui magique. Indestructible, on l'avait dressé à rejoindre la sorcière dès qu'il se trouvait séparé d'elle. Voilà pourquoi la réveilleuse n'avait pas cherché à le récupérer. Elle savait que le cylindre se débrouillerait pour nous filer entre les doigts. « Il doit être équipé de pattes mécaniques, ai-je expliqué. Il travaille à la façon des taupes. Il faut essayer de le rattraper. Hélas, nous n'étions pas équipés pour un tel travail. Il nous aurait fallu des pelles, des pioches. En outre, l'étui était malin. Il ne creusait pas en ligne droite, si bien que nous forions toujours au mauvais endroit. »
Couverte de terre et à bout de force, nous l'avons vu jaillir de la berge et s'enfoncer dans l'eau. Comme si de rien n'était, la sorcière l'a attrapée par la bandoulière et glissé à son épaule. La seconde d'après, elle se remettait en marche, sans même nous lancer un coup d'œil ironique. Pour elle, nous n'étions que des fourmis. Elle n'allait pas perdre son temps à nous narguer. Poppy s'est payé le luxe de piquer une crise de nerfs. « Tout ça pour rien, trépignait-elle. Tout ça pour rien. Je vous déteste. Vous êtes trop nulle. » J'étais épuisée, je l'avoue. Je crevais de soif et il faisait de plus en plus chaud. Nous avons partagé le reste de la gourde. Ça faisait pas des masses chacune, à peine une gorgée. Au cours de l'après-midi, nous avons fait deux autres tentatives pour capturer l'étui. Ça devenait urgent car la sorcière se rapprochait du village. La deuxième fois, les choses ont failli mal tourner. Agacée, la réveilleuse a saisi la ligne et tiré dessus de toutes ses forces. Déséquilibrée, Mathilda aurait piqué une tête dans la rivière si je ne l'avais pas rattrapée de justesse. J'ai eu une sacrée trouille. Après cet épisode malheureux, nous avons renoncé. Comme nous n'avions plus le courage de faire un pas, on s'est allongé sous un arbre pour dormir. Il n'y avait plus rien à manger, mon ventre faisait des bruits affreux. Je me suis endormie. Poppy m'a réveillée une heure plus tard, elle sanglotait, le visage déformé par la peur. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. J'ai pas pu résister, a-t-elle bredouillé. J'avais trop soif. J'ai bu l'eau de la rivière. Elle était délicieuse. Je crois que je suis en train de fondre. Ça m'a réveillée d'un coup. J'ai secoué Mathilda. Nous avons examiné Poppy. Elle ne se trompait pas. Ses traits se déformaient. Son nez et ses oreilles pendaient. Ses doigts avaient l'air de spaghettis trop cuits. C'était horrible. Dans 10 minutes, elle se transformerait en flaque d'eau et le sol la boirait. Tout à coup, j'ai eu une idée. Je me suis rappelé qu'au cours de notre marche, nous étions passés à proximité d'un groupe de rochers. L'un d'eux, creusé par l'érosion, avait la forme d'une baignoire. J'ai expliqué à Mathilda qu'il fallait retourner là-bas de toute urgence. Poppy, une fois installée au creux de cette baignoire naturelle, elle pourrait se liquéfier sans craindre d'être absorbée par la terre. « Ouais, d'accord, a fait Mathilda. Mais ensuite ?»« Ensuite, on récupérera l'eau dans une bouteille, ai-je murmuré. Nous trouverons bien un moyen de lui rendre sa forme, un jour ou l'autre. La région ne manque pas de sorcières. » Je n'étais pas vraiment sûre de ça, mais je voulais rester optimiste. Les jambes de Poppy étant devenues trop molles, j'ai dû la charger sur mes épaules car elle ne pouvait plus marcher. Nous avons couru jusqu'au rocher et j'ai installé ma copine au fond de la pierre creuse. Ensuite, j'ai du mal à le dire, mais elle a fondu très vite, comme une bougie. C'était horrible et je ne vais pas insister sur les détails. À la fin, il n'est plus resté qu'une flaque d'eau au fond de la cuvette formée par le rocher. Mathilda s'est mise à pleurer. Moi aussi. J'ai sorti la thermos de mon sac à dos et à l'aide du gobelet, j'ai entrepris de transvaser Poppy à l'intérieur de la bouteille. Je ne voulais pas trop réfléchir à ce que j'étais en train de faire. On verrait plus tard. Quand ça a été terminé, j'ai demandé conseil à la valise. « Vous êtes mal parti, a-t-elle répondu. Pendant que vous perdiez du temps, la réveilleuse s'est encore approchée du village. « Je sais, ai-je bredouillé. Nous avons tout essayé, mais l'étui nous a échappé. Alors, il ne reste plus qu'une solution, a soufflé la mallette. Si tu veux empêcher le géant de piétiner tout le monde, tu dois entrer dans sa tête. »